des Fab Labs libres pour se réapproprier ces outils avec Mathieu Dupont de Dinechin.
Donc, je m'appelle Mathieu Dupont de Dinechin et j'ai fondé il y a 3 ans un Fab Lab associatif qui s'appelle Chantier Libre, près de Roanne, dans le département de la Loire. Donc rapidement, le plan de ma présentation, ça va être en introduction, donc c'est quoi un Fab Lab, d'où ça vient, quel est le but des Fab Labs à l'origine, c'est quoi le logiciel libre, rapidement. Et après, je vais parler du lien qui existe, existerait, devrait exister entre les Fab Labs et le logiciel libre, et notre retour d'expérience de Fab Lab qui cherche à être libre. Parce que donc nous, on s'appelle Chantier Libre, c'est pas pour rien, c'est qu'on a, dès la création de l'association, il y avait ni Fab Lab, ni groupe d'utilisateurs de logiciels libres dans le Rouennais. Donc on a créé une association qui fait un peu les deux, la promotion du logiciel libre et les Fab Labs. Donc on essaye d'utiliser que des machines et des logiciels libres. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le lien entre les deux. Et à la fin, on finira, et je pense que ça sera plus là-dessus qu'on débattra peut-être sur... sur à quoi finalement devrait servir un Fab Lab ou sert un Fab Lab aujourd'hui. Déjà avant de parler des Fab Labs eux-mêmes, nous on va insister aujourd'hui sur les Fab Labs, mais il y a d'autres espaces qui font un peu le même genre de choses, qui ont plein de noms différents. Donc il y a des makerspace, il y a des hackerspace. Donc je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de toutes ces terminologies. Donc on dit pas quelqu'un qui fait ou bricoleur, on dit un maker parce que c'est plus classe. Voilà, on utilise beaucoup les termes anglais. Donc un maker, c'est quelqu'un qui fabrique des choses avec des machines compliquées. Voilà, je caricature un petit peu. Un hacker, c'est quelqu'un qui va détourner des choses. Donc c'est souvent dans le domaine de l'informatique. Donc les makerspace, c'est des lieux où les gens fabriquent. Il y a souvent de la bidouille et de la bricole matérielle. Dans les hackerspace, c'est souvent plus le côté logiciel et programmation, mais c'est souvent un peu lié entre les deux. Les Fab Labs, c'est encore autre chose. Je vais revenir dessus après. Et aujourd'hui, ça peut... c'est un terme qui est utilisé pour beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, en fait. Donc, je vais surtout parler des Fab Labs, mais ce que je vais dire sur la philosophie générale, ça peut s'adapter aux autres lieux comme les makerspace et les hackerspace. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab ? Aujourd'hui, en France, ça regroupe beaucoup de sortes de lieux différents. Donc, vous avez des petits Fab Labs associatifs, comme le nôtre, où c'est un peu de la débrouille à la bonne franquette avec des moyens très minimums. Vous avez des très gros Fab Labs institutionnels qui sont portés par une institution. Donc, par exemple, vous avez la Casemate à Grenoble, qui est portée par le CCSTI, donc le Centre de Culture Scientifique et Technique et... ingénieurs peut-être. Donc là, ils ont des très gros moyens, ils ont des salariés, Vous avez des Fab Labs portés par des universités ou des écoles, donc qui sont créés au sein d'une école et qui souvent sont ouverts que aux étudiants. Et vous avez des choses qui se revendiquent Fab Labs mais qui devraient pas l'être. On verra pourquoi, dans des entreprises, des Fab Labs d'entreprises. Et vous avez de plus en plus de lieux de médiation numérique comme les EPN, les espaces publics numériques, qui se dotent de matériel de fabrication numérique, des imprimantes 3D, des fraiseuses, et qui commencent à avoir une composante Fab Lab. Et en fait, toutes ces choses-là qui sont très différentes sont souvent regroupées sous le même nom de Fab Lab. Donc à l'origine, un Fab Lab, c'est quoi ? C'est un concept qui a été inventé dans les années 2000 par un chercheur américain qui s'appelle Neil Gershenfeld, qui travaille au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Il avait créé ça en fait à l'origine pour ses étudiants. L'idée, c'était de mettre dans le même endroit tout ce qu'il fallait, toutes les ressources pour créer un projet de A à Z. En gros, avant qu'ils fassent ça, les étudiants qui avaient une idée, ils faisaient l'idée sur croquis à l'ordinateur, mais ils pouvaient jamais vérifier si l'idée marchait. Et l'idée, c'était de mettre les machines et les compétences qu'il fallait pour qu'un étudiant il puisse créer son idée et vérifier qu'elle marche, et si elle marche pas, la modifier ou l'améliorer pour qu'elle marche. Donc c'était un lieu dédié à la fabrication, à l'invention et à l'initiative personnelle. Donc au début, l'idée c'était de faire un peu de l'innovation en court-circuit, qui est tout ce qu'il faut pour innover, que les étudiants aient pas besoin de trouver une entreprise chez qui développer leur... Donc ce genre de lieu où on regroupe... c'est un lieu, en fait, on va voir, où on regroupe des machines... des compétences pour pouvoir fabriquer à peu près n'importe quoi. Donc ça n'a pas commencé avec les Fab Labs. Il y avait déjà des makerspace, des gens qui bricolaient, qui bidouillaient, qui avaient créé des associations dans le monde entier. Il y avait un gros mouvement au Brésil notamment, avec beaucoup de récupération. Ils récupéraient du vieux matériel, qu'ils recyclaient, qu'ils transformaient, qu'ils adaptaient. Mais le Fab Lab, ça a été en gros une sorte de standardisation de ce mouvement-là, d'essayer de créer. Donc ils ont créé un label. Il n'y a pas de marque déposée, n'importe qui peut dire « je suis un Fab Lab ». Mais par contre, pour avoir le label avec le logo officiel, il faut adhérer à une charte que j'allais dire que je vous montrerai, mais que je vous lirai après. Et l'idée, c'était de standardiser un peu ça, dans le but de dire que ce qu'on faisait dans un Fab Lab, on pouvait le refaire dans un autre, pour permettre en fait de mieux communiquer entre lieux de création et que ce qui était fait à un endroit pouvait être fait dans l'autre. Si tous les Fab Labs ont les mêmes machines, on sait que ce qui est développé dans un Fab Lab pourra être fait dans l'autre. Donc l'avantage, c'est ça. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de makerspace et hackerspace qui trouvent que ce côté un peu standardisé, justement, est nuisible à la créativité, à l'engagement, au côté un peu alternatif des makerspace. Donc il y a des pays où il y a des makerspace qui se revendiquent non Fab Lab. Ils disent on n'est pas un Fab Lab. Voilà. En France, la distinction est moins marquée. Donc la charte du MIT qui permet de dire qu'on est un Fab Lab, elle contient plusieurs points. Donc le premier, c'est la mission. Donc la mission des Fab Labs, c'est d'être un réseau mondial de laboratoires locaux qui rendent possible l'invention en ouvrant aux individus l'accès à des outils de fabrication numérique. Le deuxième point de la charte, c'est l'accès. Donc vous pouvez utiliser le Fab Lab pour fabriquer à peu près n'importe quoi, dès lors que cela ne nuit à personne. Vous devez apprendre à le fabriquer vous-même et vous devez partager l'usage du lab avec d'autres usages et utilisateurs. Éducation. La formation dans le Fab Lab s'appuie sur des projets et l'apprentissage par les pairs. Vous devez prendre part à la capitalisation des connaissances et à l'instruction des autres utilisateurs. Responsabilité. Donc ça, on va passer vite. Vous êtes responsable de la sécurité, la propreté. Donc vous laissez pas sale, vous faites la vaisselle, tout ça. Et la continuité pour être sûr que le Fab Lab continue à marcher. Il y a une partie sur le secret aussi. Donc les concepts et les processus développés dans les Fab Labs doivent demeurer utilisables à titre individuel. En revanche, vous pouvez les protéger de la manière que vous choisirez. Et business. Des activités commerciales peuvent être incubées dans les Fab Labs, mais elles ne doivent pas faire obstacle à l'accès ouvert. Elles doivent se développer au-delà du lab plutôt qu'en son sein et bénéficier à leur tour aux inventeurs, aux labs et aux réseaux qui ont contribué à leur succès. Donc pour résumer, un Fab Lab, c'est des compétences, des machines et un réseau. Et tout ça s'est mis à disposition et rendu le plus accessible possible, à la fois financièrement, c'est-à-dire que le but c'est que les gens aient payé le moins cher possible pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Géographiquement, c'est pour ça que c'est un réseau de Fab Lab qui se veut le plus disséminé possible pour que n'importe qui puisse avoir accès à ces techniques et techniquement de le rendre accessible par les formations, le partage de connaissances pour éviter que ça devienne juste des petits groupes de geeks qui se retrouvent entre eux à faire leur bidouille entre eux. Donc c'est un lieu pour faire, apprendre et échanger. Donc les compétences, ce que je disais, c'est des compétences, des machines et un réseau. Les compétences qu'on retrouve dans un Fab Lab, c'est des compétences en informatique, en programmation, en conception 3D, donc comment dessiner en 3D, créer des formes en 3D, en électronique, parce que c'est pas seulement de la fabrication d'objets, c'est aussi de la fabrication de mécanismes qui peuvent contenir de l'électronique et de l'informatique. En usinage, pour apprendre à découper des matériaux, en mécanique, en matériaux, voilà, il y a un champ de compétences très vaste. Les machines, qui viennent en fait après les compétences, parce que le plus dur à trouver, c'est les compétences, c'est pas les machines. Donc on commence par la plus connue, c'est l'imprimante 3D, mais en fait, c'est pas la plus utile. Donc l'imprimante 3D, on en a une sur le stand, vous pourrez voir. C'est une machine qui permet de faire des objets en plastique à partir d'un fichier 3D. Il y a la découpeuse laser qui permet de découper des matériaux. Donc là, on est en 2D. On fait un dessin en 2D sur l'ordinateur. Et il y a un laser qui vient découper. Ça peut être du bois, du plexiglas, de l'aggloméré, du carton, du tissu, du cuir. Et on peut soit découper, soit graver. Il y a les fraiseuses numériques. Donc ça, c'est... excusez-moi. C'est comme la fraiseuse du dentiste, en gros, mais mise sur une machine 3 axes. Donc c'est un outil qui tourne très vite, qui peut découper, c'est, ou une défonceuse pour un bricoleur, et ça vient creuser, donc enlever de la matière pour creuser dans métal, bois, plastique, un peu ce qu'on veut. Il y a des découpeuses vinyles qui permettent de découper des autocollants, des transferts pour les t-shirts, des circuits imprimés souples, des scanners 3D pour permettre de, à partir d'un objet, de recréer le fichier 3D de la forme de l'objet, un peu de matériel électronique et du matériel de prototypage électronique, donc tout ce qui est Arduino, on pourra revenir dessus dans les questions s'il y en a qui veulent que je développe certains points. Et aussi de l'outillage standard, des marteaux, des tournevis, des perceuses, des visseuses. Voilà, parce que le but, c'est de fabriquer des choses. Et, pardon, et pour fabriquer, eh ben, il faut assembler. Il faut, donc l'outillage traditionnel est aussi utilisé. Donc concrètement, un Fab Lab, ça peut servir à quoi ? L'idée, c'est que les gens viennent avec leur idée et ils peuvent la réaliser au sein du Fab Lab. Donc ils ne pourront pas réaliser forcément le produit final, parfaitement fini et lisse. Donc si vous venez en disant je veux faire un iPhone, voilà, vous pourrez faire un téléphone portable qui fait 1,5 kg en plastique moche et il marchera comme un vrai téléphone. Vous pourrez pas faire le magnifique iPhone que vous vendrez. Donc l'idée c'est que vous pouvez créer des projets, mais vous pouvez pas créer des produits finis. C'est pas une usine, c'est pas quelque chose pour créer, pour produire en masse. C'est plus pour concrétiser des idées. Donc comme exemple concret, on en a plein, nous on en a quelques-uns sur le stand. Dans les exemples qui ont été un peu médiatisés, il y en a un, parce qu'il a été fait en France, qui s'appelle Bionico Hand. C'est un monsieur qui a eu un accident de moto, et il a perdu une main, et il est allé voir un Fab Lab, donc le Fab Lab de Rennes, et il leur a dit, voilà, une prothèse de main, une orthèse de main qui bouge, ça coûte trop cher. On m'a dit que dans les Fab Labs, on pouvait tout faire. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire une orthèse de main ensemble ? Voilà. Et comme il y avait un autre Français qui avait développé un robot humanoïde complètement imprimable en 3D, dans le Fab Lab, ils se sont dit, bah, en fait, il y a déjà un gars qui a fait un robot. Ce robot, il a une main. Donc, on peut déjà utiliser ça comme point de départ. Après, ils n'avaient aucune compétence pour commander cette main robotique avec le corps de Nico. Donc ils ont cherché dans le réseau des Fab Labs s'il y avait des Fab Labs qui avaient ces compétences-là. Et il y avait en Amérique du Sud, je ne sais plus dans quel pays, j'ai peur de vous dire des bêtises, un Fab Lab qui avait déjà travaillé là-dessus. Souvent, elles sont commandées parce qu'il n'avait plus d'avant-bras, mais il avait encore les muscles ici. Donc il pouvait plier les muscles et il y a des capteurs qui permettent de détecter le fait qu'on plie le muscle. Et donc avec ce capteur, on pouvait commander la main. Et donc en mélangeant ces différents projets, ils ont réussi à créer une main robotique pour Monsieur Nico, qui marche, qui peut commander avec les muscles de son bras, et pour moins de 1000 euros. La première version a coûté moins de 1000 euros, alors que l'équivalent acheté, ça commence à 10 000 euros. Donc ça, c'est un projet qui est assez emblématique, parce que il montre bien ce qu'on peut faire dans un Fab Lab. Après, on fait pas des super prothèses incroyables comme ça dans tous les Fab Labs. On n'a pas encore eu un projet d'une telle ampleur, nous, chez nous, mais voilà. Un autre exemple plus concret, vous pourrez aller le voir, c'est l'imprimante 3D que nous, on utilise, qui s'appelle l'Ultimaker. Et en fait, c'était trois personnes qui se connaissaient pas, qui se sont rencontrées dans un Fab Lab à Utrecht, donc le Protospace. Et ils étaient tous les trois d'accord sur le fait que les imprimantes 3D qu'il y avait à disposition, elles n'étaient pas assez bien. Et donc ils se sont rencontrés dans ce lieu et ils se sont mis à travailler ensemble sur une imprimante 3D qui leur correspondait plus. Et ils ont fait complètement le prototype là-bas. Et c'est pour ça qu'elle est fabriquée, le premier modèle, il est fabriqué en bois à la découpe laser. Et vous verrez que la nôtre, elle est en contreplaqué, découpée à la découpe laser. Et en fait, elle était tellement bien, leur imprimante, qu'il y a plein de gens qui ont dit « mais il faut que vous la vendiez ». Et donc, ils se sont mis à la commercialiser. Et aujourd'hui, c'est, je crois, le deuxième plus gros vendeur d'imprimantes 3D au monde. Ils ont plus de 20 employés. Et ils ont gardé cet esprit d'ouverture. Donc, tous les plans de leurs imprimantes sont disponibles. On peut télécharger sur leur site le plan de l'imprimante et la fabriquer chez soi. Ou on peut leur acheter directement. Donc, c'est un autre exemple de « on vient avec une idée et on fabrique ». Donc maintenant, ils ont fait d'autres versions qui sont beaucoup plus classes, qu'on ne peut pas fabriquer dans un Fab Lab en aluminium et tout ça. Mais la première version, elle est fabricable entièrement dans un Fab Lab. Un Fab Lab, en fait, c'est un lieu où on peut fabriquer plein de choses avec des machines commandées à l'ordinateur. donc des imprimantes 3D, des fraiseuses et tout ça. Alors la question qu'on nous pose souvent, et notamment moi par exemple, j'ai mon grand frère qui est un gros bricoleur, mais un vrai bricoleur avec ses mains, pas avec des machines. Pendant longtemps, il m'a demandé mais ça sert à quoi ton truc ? Moi, tu me donnes un marteau, un bout de ferraille et un bout de fil de fer et je fais pareil. Voilà, un fer à souder. Il n'y a pas besoin de machine électronique commandée par un ordinateur acheté sur eBay qui vient de Chine et tout ça. Voilà, pour faire tout ça. Et donc on a eu beaucoup de discussions là-dessus. C'est dommage, j'ai les photos de son vélo. J'aurais pu vous montrer. Donc le siège enfant de son vélo est cassé. Il l'a réparé avec des boîtes de thé. Qu'il a découpé les boîtes de thé en métal, qu'il a découpé, qu'il a accroché avec du fil de fer. À l'avant, le porte-bagages, il est tenu par des chambres à air de vélo. Il y a plein de morceaux collés au pistolet à colle et ça marche très bien. Alors, nous, on n'est pas du tout dans l'opposition entre ce type de bricolage-là et ce qu'on fait dans un Fab Lab. L'idéal, c'est de pouvoir faire les deux ensemble. L'inconvénient, c'est que lui, il est très adroit de ses mains et il y a plein de gens qui ne seront pas capables de bricoler aussi bien que lui. Et ces gens-là, ils vont avoir accès à une forme de bricolage qui est différente avec l'utilisation des machines numériques. Donc ça permet à des gens qui ont deux ou trois mains gauches de quand même créer des choses, même s'ils n'ont pas passé leur vie à bricoler. Voilà. Donc ça, c'est un des intérêts des lieux comme le nôtre. L'autre intérêt, c'est que ce qu'on fait dans un Fab Lab, si c'est un fichier qu'on a créé à l'ordinateur et qu'on va après fabriquer avec, par exemple, la découpeuse laser, ce fichier, on peut l'envoyer à n'importe qui. Donc on peut le mettre sur le site internet de notre Fab Lab par exemple, et quelqu'un qui cherche quelque chose, il va pouvoir utiliser ce fichier pour refaire la même chose ou l'améliorer. Donc il y a une transmission du savoir qui est plus rapide et quelque part plus efficace que ce qu'on a avec les savoir-faire traditionnels. Par contre, cette transmission, elle perd le côté humain. C'est-à-dire qu'entre un apprenti qui va apprendre de son maître comment travailler et quelqu'un qui va télécharger sur internet un fichier qui a été fait par quelqu'un d'autre, c'est pas du tout la même relation. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les Fab Labs, c'est un réseau local, c'est un réseau de lieux locaux où on se rencontre, on fabrique localement ensemble pour ne pas perdre ce côté humain. Le but, c'est pas que chacun ait une imprimante 3D chez lui et télécharge des fichiers, ça reste de fabriquer ensemble. Voilà. Mais donc c'est pour dire, en général, dans les Fab Labs, on mélange quand même... souvent, les gens, ils pensent qu'on a que des imprimantes 3D. On a aussi des marteaux, des postes à souder, du fil de fer. Et on fait aussi des... Des fois, ça va plus vite d'utiliser un gros bout de fil de fer que de réimprimer une pièce. Le logiciel libre, donc je vais parler rapidement, puisque apparemment une bonne partie des gens ici savaient ce que c'était. Donc, en gros, la définition des logiciels libres, c'est des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. Donc, ça veut dire que les utilisateurs, ils ont la liberté d'exécuter le logiciel, de le copier, de le distribuer, de l'étudier, de le modifier et de l'améliorer. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est que c'est pas seulement un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel que vous pouvez transformer. Donc c'est un logiciel qui est à vous, c'est un outil qui vous appartient et on reviendra beaucoup là-dessus sur la fin de ma présentation. Donc entre les Fab Labs et le logiciel libre, donc là je vais parler plutôt de la France parce que c'est ce que je connais le mieux, je sais pas dans les autres pays si c'est pareil. On a des liens qui sont plus ou moins distendus entre le mouvement des Fab Labs et le mouvement du logiciel libre. Donc on utilise beaucoup de logiciels, et juste avant de parler de ça, j'ai oublié de vous dire que le mouvement du libre aujourd'hui, il s'arrête pas seulement au logiciel, il allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a aussi des licences libres qui permettent de publier des œuvres de l'esprit, donc des œuvres d'art, de la musique, des films libres, en laissant les gens partager, réutiliser, transformer. Voilà. C'est un peu par rapport au droit d'auteur où, voilà, mettons que quelqu'un, vous utilisez par exemple la musique de, je sais pas, Eye of the Tiger pour votre fête de mariage, au moment où on amène le gâteau, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez utiliser la musique de votre film préféré, vous êtes obligé de demander l'autorisation, non pas à l'auteur, mais à ce qu'on appelle les ayants droit, donc la maison de production et tout ça. Il y a une autre forme de droit de propriété qui est les licences libres, qui permettent de dire, moi, ce que j'ai créé, j'accepte que n'importe qui le partage, n'importe qui l'utilise et n'importe qui le modifie. Donc vous avez plusieurs niveaux. Vous pouvez dire, moi, je veux bien que n'importe qui l'utilise, seulement s'il me cite. Ou bien, moi, je veux bien que n'importe qui l'utilise, mais pas pour faire de l'argent. Ou bien, moi, je veux bien que n'importe qui l'utilise et le modifie, fasse de l'argent avec, ce qu'il veut, voilà. Et c'est des formes de droits qui sont beaucoup plus adaptées à Internet, où aujourd'hui, on peut tout partager, voilà. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'une œuvre de l'esprit, quand vous en prenez une, vous téléchargez un film, ça n'a rien à voir avec une baguette. Les gens qui vous disent c'est du vol, voilà, quand vous volez une baguette de pain, vous empêchez quelqu'un de manger cette baguette de pain. Quand vous téléchargez une œuvre de l'esprit sur Internet, comme elle peut se multiplier à l'infini, en fait, vous ne prenez rien à quelqu'un. Vous multipliez les choses. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes raisonnements aux œuvres de l'esprit qu'aux baguettes de pain. Voilà. Donc, voilà. Et donc, le mouvement du libre, il allait sur ces histoires de propriété intellectuelle. Même le terme propriété intellectuelle, beaucoup de gens pensent que, en fait, c'est une fumisterie. Ça ne devrait pas exister. Comment on peut être propriétaire d'une idée? Personne n'a jamais eu une idée complètement neuve. On s'est toujours appuyé sur des idées d'autres. Voilà. Et c'est même allé plus loin. Maintenant, il y a du matériel libre. Donc, par exemple, je vous ai parlé de l'imprimante 3D, dont tous les plans sont libres. Voilà. Donc, il y a des gens qui font des inventions et qui les publient sous licence libre pour que n'importe qui puisse les copier ou voilà. Alors, donc, pour revenir sur les Fab Labs et le mouvement du libre, donc, on utilise beaucoup de matériel libre dans les Fab Labs. Donc, par exemple, il y a l'Arduino qui est une carte de prototypage électronique qui est quelque chose de libre. Il y a beaucoup d'imprimantes 3D qui sont libres, comme donc l'Ultimaker qu'on a, ou toutes les RepRap, qui sont des machines qui peuvent se reproduire en partie elles-mêmes. Et il y a pas mal d'autres machines, donc nous on essaye d'avoir presque que des machines libres. Et il y a beaucoup de logiciels libres qui sont utilisés dans les Fab Labs. Et normalement, les Fab Labs publient la plupart de ce qui est fait en leur sein sous licence libre. Ça, c'est le côté un peu positif. Et au départ, c'était beaucoup ça. Après, malheureusement, aujourd'hui, il y a une espèce de dérive qui fait que, par exemple, la Fab Lab Foundation a passé un partenariat avec Autodesk, qui est un peu un ogre des logiciels propriétaires qui rend les gens captifs et leur vend des logiciels très chers. Voilà. Il y a beaucoup de Fab Labs, quand on va sur leur site, là j'ai des captures d'écran, je ne donnerai pas de nom, hein, je ne suis pas là pour dénoncer, mais qui font des formations de logiciels payants. C'est-à-dire que vous allez dans le Fab Lab et vous pouvez vous former, apprendre à utiliser les logiciels. Le problème, c'est quand vous rentrerez chez vous, il faudra payer le logiciel pour l'utiliser. Voilà. Donc nous, ils nous proposent, ils nous disent, mais c'est gratuit pour vous les Fab Labs, on vous les donne les logiciels. Mais ils ne sont pas fous, ils savent que c'est gratuit pour nous, mais les utilisateurs devront payer derrière. Donc en fait, ce dont on s'aperçoit au final, c'est que dans les Fab Labs, on a un peu le même problème qu'avec le logiciel libre de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser tant que c'est plus facile que les logiciels ou les machines standards. Donc presque tout le monde utilise Firefox parce que ça marchait mieux qu'Internet Explorer. Donc là, les gens le font. Par contre, dès que ça change les habitudes, dès que c'est un peu difficile, un peu compliqué, les gens arrêtent. Voilà, ils font peu l'effort et c'est un petit peu décevant parce que on pourrait se dire que dans un Fab Lab où c'est un lieu où on va bidouiller, créer, faire des efforts, qu'on pourrait faire un peu plus d'efforts pour intégrer ces logiciels libres. Donc pour résumer, le côté open, il est très bien intégré comme moyen d'efficacité, c'est-à-dire pour échanger les fichiers, c'est très bien, c'est pratique, il n'y a pas de droit d'auteur et tout ça. Par contre, c'est presque jamais vu comme un engagement. Donc, dès que c'est plus dur, on laisse tomber. Donc, quand c'est plus facile, si le Fab Manager d'un Fab Lab, il a l'habitude d'utiliser, SolidWorks, il va utiliser SolidWorks au lieu d'utiliser un logiciel libre comme FreeCAD. Et souvent, on est plus dans la démarche open source que logiciel libre. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la différence entre les deux. Non. Voilà. En fait, c'est deux mouvements qui sont complètement différents. Sauf qu'en France, comme on préfère les termes anglais parce que c'est plus cool, et en général, dans les journaux, tout le monde parle d'open source parce que c'est open et ça sonne bien. En gros, l'open source, c'est des gens qui pensent que de libérer le code des logiciels, ça permet de les rendre plus efficaces. Voilà. Donc, c'est uniquement eux, ils veulent que les logiciels soient réutilisables, modifiables, mais uniquement dans un but d'efficacité. Le but, c'est de dire, comme ça, les bugs, ils sont corrigés plus vite, les utilisateurs envoient les retours et tout ça. Alors que le logiciel libre, il y a un vrai engagement. En gros, le logiciel libre, le but, c'est pas seulement de faire du meilleur code, c'est de faire un monde meilleur. C'est-à-dire de dire que si les gens ne sont pas propriétaires de leur logiciel et de leurs outils, ils vont être dépendants de leur outil. et ils ne seront pas maîtres de ce qu'ils utilisent. Donc il y a un engagement plus politique et sociétal dans le mouvement des logiciels libres. En gros, l'open source, c'est pour faire des logiciels meilleurs, et le libre, c'est pour faire un monde meilleur. Je simplifie, et après on pourra en débattre si vous voulez. Donc en fait, les questions que je vais poser maintenant, c'est pourquoi je parle de libre et de Fab Lab finalement. Est-ce que vraiment il y a un lien? Est-ce que le libre devrait être inscrit dans les gènes des Fab Labs? Est-ce qu'il est inscrit? Et s'il l'est pas, pourquoi? Et là, alors c'est dommage parce que j'ai surligné plein de mots en rouge. Mais quand on reprend la charte des Fab Labs, on trouve les mots ouvrir aux individus l'accès à des outils. On doit apprendre. Il y a l'apprentissage par les pairs. Il y a la capitalisation des connaissances. J'aime pas le terme capitalisation, mais il y a le fait de mettre en commun des connaissances. Les choses doivent rester utilisables par tous les individus. Il y a écrit encore accès ouvert, bénéficier au Fab Lab, au réseau et tout ça. Donc il y a vraiment écrit dans la charte des Fab Labs que le but, en gros, c'est de créer des communs de connaissances. C'est plutôt que chacun invente des choses et les garde pour lui, c'est que les Fab Labs sont des lieux de création de connaissances et que ces connaissances doivent être partagées. Voilà. Et le problème, c'est que si vous créez des connaissances en utilisant des logiciels qui sont fermés, les gens ne pourront pas les partager. Ou alors, il faudra qu'ils payent une entreprise pour utiliser ces logiciels, pour pouvoir développer, améliorer et tout ça. C'est-à-dire, si vous créez une super invention, un porte-gobelet électronique qui verse, je dis n'importe quoi, que cette invention, elle est géniale. Pardon, ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler. Si cette invention, elle est géniale, mais que pour ouvrir les fichiers de votre invention, il faut acheter un logiciel qui coûte 4000 euros, personne ne va l'utiliser. Elle ne sera pas partagée. C'est pour ça que si vous voulez que les connaissances que vous créez dans un Fab Lab se diffusent et soient partagées, il faut que vous utilisiez des logiciels libres. Alors ensuite, je me dépêche. Oui. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a une espèce de dérive en France sur le mouvement des Fab Labs qui sont devenus, en gros, les gens les présentent aujourd'hui surtout comme un lieu pour favoriser l'innovation. Voilà. Donc, il faut innover. Alors, la dérive, c'est qu'on a une espèce de surenchère de gadgets. Donc, il y a des drones, il y a beaucoup de drones, il y a encore des drones. Il y a plein d'objets connectés à Internet, et puis il y a des drones encore, des drones connectés à Internet. Et des fois, on se demande si les Fab Labs, ils servent qu'à créer des drones il y a un gars qui avait fait une machine qui allait lui servir une bière quand il envoyait un tweet avec son téléphone portable. Il avait modifié sa voiture radiocommandée, et quand il tweetait « j'ai soif », sa voiture radiocommandée lui amenait une bière sur son canapé. C'est super rigolo comme invention, mais si les Fab Labs ne créent que ce genre de richesse, je pense que ça serait un peu parti à côté de ce que ça devait être. Et donc, les Fab Labs dérivent un peu vers une surenchère de gadgetisation. Le mythe c'est un terreau à start-up. C'est-à-dire que les Fab Labs serviraient à créer de la richesse économique. Les Fab Labs, ils sont là pour que des gens qui ont des idées de super business pour gagner des millions sur les derniers trucs à la mode, ils puissent créer leur invention dans le Fab Lab. On dérive vers un but de les Fab Labs doivent créer de la richesse économique. Alors, nous, on croit que les Fab Labs peuvent créer de l'innovation, mais on se demande quand même un peu si on peut pas rêver que cette innovation, ça soit pas que de l'innovation technologique, mais aussi de l'innovation sociale, dans la manière de travailler, dans la manière d'échanger, dans la manière de concevoir et tout ça. Alors cette dérive, elle vient d'où? Pour faire rapide, c'est un espèce de drôle de cercle vicieux. Donc au début, les Fab Labs, ils ont été créés pour favoriser l'apprentissage par le faire et l'expérimentation. Et il se trouve que dans certains Fab Labs, il y a des super produits qui ont été inventés, qui ont très bien réussi, et des startups qui ont démarré dans des Fab Labs. Mais ça, c'était un effet collatéral et marginal. Mais il y a des gens qui se sont dit « Ah oui, il y a de l'argent qui se crée dans les Fab Labs, donc c'est super. Il faut pousser les Fab Labs pour favoriser la création de richesses. » Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on finance plus volontiers les finances publiques, par exemple, financent plus volontiers des startups que des bibliothèques. Donc, un lieu où on crée de la richesse économique, il y a des subventions, il y a de l'argent qui sort et tout ça. Mais ça, au début, c'était un effet collatéral. Mais donc, Et les Fab Labs, ils se sont mis à se dire, oui, si on veut gagner de l'argent, enfin, si on veut avoir des subventions, il faut qu'on se vende un petit peu comme terreau à start-up et comme créateur de richesses. Et donc, c'est un peu le cercle vicieux où on va présenter aux élus, oui, mais vous savez, dans mon Fab Lab, on va créer plein de richesses pour votre territoire. Et donc, après, les élus donnent une subvention. Et après, une fois qu'on a fait ça, on est un peu obligé de continuer dans ce mouvement-là et d'essayer de créer de la richesse économique pour le territoire, parce que c'est ça qui est attendu en retour. Et donc, petit à petit, on a de plus en plus de Fab Labs qui se tournent vers le service aux entreprises, vers la création de richesses économiques et qui négligent un peu les autres richesses. Donc nous, on réfléchit un peu à quel autre rôle pourraient avoir les Fab Labs. Donc en gros, nous, on aimerait bien que ça serve à construire un monde meilleur, pour faire simple. Donc un des rôles principaux pour nous, ça serait de favoriser la diffusion du savoir. Donc du savoir notamment technologique. Il y a d'autres lieux qui permettent de diffuser la culture, les livres, la littérature, les échanges. Il y a des lieux de création de liens sociaux et tout ça. Le Fab Lab, ça peut être un lieu pour favoriser la diffusion du savoir technique et en profiter pour, si on peut caser d'autres savoirs en mélangeant les choses, ça peut être très bien. Mais donc on apprend par les pairs, on apprend les uns des autres, on partage des connaissances. Nous, au Fab Lab, on est une dizaine d'adhérents qui travaillent beaucoup. On a chacun notre domaine de compétences et on apprend énormément les uns des autres. Donc ça crée de la richesse. Je peux pas vous dire combien elle rapporte en euros, cette richesse, mais c'est une richesse. Voilà. L'autre chose, c'est la réappropriation des technologies, donc notamment en combattant l'obsolescence programmée, parce qu'on peut réparer beaucoup de choses dans les Fab Labs, en essayant de fabriquer localement et surtout en essayant de produire de manière intelligente. De se dire, oui, je fabrique un gadget, mais pourquoi? Alors là, je dis ça, mais vous allez voir, notre stand, il est rempli de gadgets qui servent à rien, qui sont juste décoratifs, mais voilà, on aime bien s'amuser aussi, hein, mais on fait pas que des choses utiles, mais voilà, le but, c'est de se poser la question, fabriquer, oui, mais pourquoi? Créer, oui, mais pourquoi? Et aussi, que ça soit un lieu d'innovation sociale, pour voir comment on peut travailler autrement, comment on peut concevoir autrement, et comment on peut utiliser les outils numériques pour un peu changer le monde. Donc là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont écrit plein de textes intéressants, on pourra en parler après. Donc le problème de ça, je vais passer très vite, c'est qu'il faut le payer. Enfin, comment on le paye? Quand je dis il faut le payer, c'est aussi une question, est-ce qu'il faut le payer ou pas? Nous, on est tous bénévoles dans l'association. Par contre, on a eu une subvention pour acheter des machines, parce qu'il y a certaines machines qui sont un peu chères. Donc au début, on avait tout récupéré, fabriqué, c'était des dons, transformés et tout ça. Et pour acheter certaines machines, par exemple la découpeuse laser, elle coûte 8000 euros. Bah là, on a eu une subvention, la collectivité. Donc on a quand même été soutenu. Le problème des subventions, c'est que c'est fortement, ça crée une forte dépendance. Nous, on a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de salariés. Donc au pire, maintenant, on a eu nos sous, nos machines. Si on n'a pas de rentrée d'argent, c'est pas grave. Mais une association qui aurait un salarié, il faut qu'elle trouve de l'argent pour payer ce salarié. Et si elle veut que son activité en direction du grand public reste bon marché, elle ne peut pas faire payer ça très cher. Donc comment elle finance son salarié? Voilà, c'est plein de questions qui font que il y a quand même un problème de comment on paye, du modèle économique des Fab Labs. C'est-à-dire que c'est beau de vouloir diffuser tout ça, mais soit on repose que sur des bénévolats, ça marche dans certaines structures. Après, au niveau du matériel, on peut se contenter de matériel bricolé, récupéré, ça prend plus de temps, et voilà. Il y a la voie du financement participatif qui est de plus en plus utilisée, qui marche assez bien. On avait fait une campagne de financement participatif pour payer une partie des machines. Voilà. Donc là, je vais passer un peu vite, parce qu'on verra en fonction des questions, sur le matériel libre qu'on utilise. Donc nous, en gros, on n'a que du matériel libre, c'est-à-dire des machines qui ont des plans disponibles sur Internet, à part une machine qui est la découpeuse vinyle que vous verrez là-bas, parce qu'il n'en existe pas de libre et qu'on n'avait pas le temps de la créer, parce que c'est une machine qui est dure à créer. Par contre, on n'avait pas non plus de fraiseuse grand format libre, et là, donc, on en a conçu une. Il y a un des adhérents du Fab Lab qui avait déjà travaillé un peu là-dessus, qui est venu au Fab Lab parce que lui, il connaissait la partie mécanique, mais pas la partie électronique. Et il est venu au Fab Lab en disant, j'aimerais faire une grande fraiseuse, mais j'y connais rien en informatique. Et on lui a dit, nous, on aimerait faire une grande fraiseuse, et on n'y connaît pas grand-chose en mécanique. Et voilà, donc, et là, la fraiseuse, elle est prête, on va commencer la fabrication, et les plans seront libres. Donc, c'est une fraiseuse de 2,50 m par 1,25 m qui permet de fabriquer du mobilier, des éléments de construction et des choses comme ça. On n'utilise que des logiciels libres, on n'est pas fermé, c'est-à-dire si un adhérent vient avec son ordi et qu'il a des logiciels pas libres, il a le droit, mais nous on ne fait que la promotion des logiciels libres, on n'utilise que des logiciels libres. Donc en 3D on utilise FreeCAD, Blender, en 2D Inkscape, GIMP, Photoshop, donc on a tout ce qu'il faut en fait pour y arriver. Parfois c'est un petit peu galère, mais je vais pas trop passer de temps là-dessus, mais on y arrive. En conclusion, et après on verra s'il y a des questions, des débats, il n'y a pas de position officielle sur les Fab Labs. Chaque Fab Lab fait un peu ce qu'il veut au niveau libre, ouverture et tout ça. Donc je vous ai parlé d'une dérive, ça ne veut pas dire que tout le mouvement Fab Lab est acheté en France. Il y a beaucoup de Fab Labs qui font des efforts, qui utilisent des logiciels libres, des machines libres, voilà. J'ai un peu fait l'avocat du diable pour montrer les dérives. Mais c'est aussi pour dire que ça serait dommage que cette dérive s'amplifie, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de position officielle, donc chaque Fab Lab fait un peu ce qu'il veut. Donc la question, on pourrait la poser est-ce que le mouvement maker ou hacker est-ce qu'il est soluble dans le capitalisme? Donc est-ce qu'on peut faire de l'argent dans un Fab Lab sans perdre son âme? Est-ce qu'on peut le financer sans devenir dépendant d'un modèle économique qui nous verrouille? Est-ce que l'idée, ce serait pas plutôt de s'inscrire dans un mouvement de convergence de nombreuses alternatives, donc écologie, transition, décroissance, réappropriation citoyenne du politique? Sinon, on vient à Prime Vert, je pense que vous avez une idée sur ce qu'on pense de cette question-là. Donc en gros, la question, c'est est-ce que les Fab Labs sont un outil politique, un vecteur de changement, ou bien juste une nouvelle expression un peu sympa et branchée du modèle actuel? Il y a beaucoup de gens à la création des Fab Labs qui disaient qu'ils allaient hacker, donc détourner le capitalisme grâce au mouvement maker. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le capitalisme est en train de hacker le mouvement maker et de le détourner de son truc d'origine. Donc il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup d'endroits où on essaye de pas faire ça, mais voilà. Donc en gros, nous, la ligne directrice de notre Fab Lab, c'est une phrase d'un Brésilien qui s'appelle Felipe Fonseca, et qui disait que le but d'un mouvement qu'il a fondé qui s'appelle Meta Recyclagem, c'était une réappropriation critique de la technologie pour le changement social. Et en gros, nous, ça résume à peu près ce qu'on aimerait faire. Voilà. Donc ça veut dire comprendre les techniques, parce que vous pouvez pas maîtriser un outil si vous le comprenez pas. Découvrir ou redécouvrir que chacun peut créer. Ça paraît bête, mais il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils arrivent dans le Fab Lab, ils n'imaginent pas qu'ils peuvent fabriquer des choses. On est tellement dépendant de la consommation, de l'achat de choses toutes faites, que beaucoup de gens se rendent même pas compte qu'en fait, ils ont tous les outils chez eux pour fabriquer des choses. Donc c'est créer. Une fois qu'on a découvert qu'on pouvait créer, c'est créer. Mais c'est aussi beaucoup réparer, détourner, réutiliser. C'est-à-dire pas seulement créer, mais réutiliser des choses qui existent. Il y a énormément de choses dans nos poubelles qu'on peut réutiliser. Critiquer. C'est pourquoi on réutilise, pourquoi on refait, pourquoi on fabrique, et puis partager. Donc ça, c'est la partie réappropriation critique de la technologie pour le changement social. Et l'autre point très important, c'est d'être maître de ses outils. En gros, les outils numériques ne sont que des outils et ne devraient être que des outils. Moi, je pense que vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle, des hommes augmentés, des choses comme ça. Faut savoir qu'un ordinateur, en fait, c'est pas intelligent. C'est une machine qui fait qu'une suite d'opérations, énormément d'opérations, mais des opérations basiques. Donc c'est un outil. Je montre ça parce que ça, c'est un ordinateur. Ça n'existe plus, les téléphones. Maintenant, même les frigos, c'est des ordinateurs, certains. Ils se connectent à Internet et ils envoient la liste de ce que vous mangez à Google. Et voilà. Ça, c'est un outil. Le problème, c'est que si vous savez pas comment ça marche, vous êtes dépendant de cet outil et vous êtes dépendant des gens qui l'ont fabriqué. Donc être maître de ces outils, ça veut dire le connaître, savoir comment il fonctionne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le problème, un outil comme ça, c'est tellement compliqué qu'une personne toute seule ne peut pas le comprendre. Et c'est pour ça que le fait que les Fab Labs ou les Makerspace, les Hackerspace, ça soit un réseau, c'est qu'en fait cette connaissance et cette maîtrise de l'outil, elle peut plus être aujourd'hui individuelle. C'est-à-dire que vous pouvez plus vous dire, il y a des gens qui, on voit des vidéos sur internet de gens qui vont dans la forêt, ils fabriquent des maisons eux-mêmes, avec, ils partent d'une pierre et ils coupent le bois avec la pierre, ils font des briques eux-mêmes, ils font du feu, voilà, ils recréent tous leurs outils complètement. C'est possible, mais ça fait revenir très loin en arrière. Aujourd'hui, on a des outils qui sont pas forcément tous achetés. Les ordinateurs, ça peut être utile. Personne peut comprendre tout seul comment fonctionne un ordinateur, mais en créant une communauté, donc c'est ce que fait très bien le mouvement du logiciel libre. C'est-à-dire dans le mouvement du logiciel libre, je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit capable de comprendre complètement un ordinateur et tous les logiciels. Par contre, la communauté dans son ensemble comprend ça et permet que les gens soient maîtres de leur outil, parce que dans cette communauté, il y a des gens qui savent comment fonctionne tel logiciel, comment fonctionne tel microcode, comment fonctionne voilà. Donc cette connaissance et cette maîtrise aujourd'hui, elle peut plus être individuelle, et le mouvement maker, hacker, logiciel libre, je pense que son rôle, il est là, il est de créer une communauté qui sait maîtriser ces outils pour que les gens ne soient pas dépendants de Google, Apple, Microsoft, Amazon et compagnie, mais soient vraiment maîtres de leurs outils. Donc je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop long. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc si vous avez des questions, j'imagine qu'il y a un micro qui peut se promener.
On en a même un sans fil, ce qui est génial.
D'accord. Donc
si vous avez des questions, là il y a un temps questions-réponses qui peut durer encore un moment.
Typologiquement, vous devez être introverti parce que vous avez beaucoup parlé du passé et du présent, mais pas de l'avenir. Alors au niveau de la créativité dans l'avenir, comment vous voyez les Fab Labs dans 10 ans, et surtout comment vous voyez dans 10 ans? C'est-à-dire, est-ce que votre personnalité aura été transformée en lien avec ce que vous allez apprendre grâce au Fab Lab?
Alors, pour commencer par la fin, elle a déjà été transformée. Et ça a commencé avec le logiciel libre. Pour faire un résumé donc, personnel, je repars du passé. Moi, il y a 15 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était que le logiciel libre et je m'en foutais complètement. Voilà. Et un jour, j'en ai découvert un qui était simplement génial, qui s'appelle Blender, qui est un logiciel de 3D. J'ai toujours été fanat de 3D. Et au début, je l'ai adoré parce qu'il marchait super bien. Et le fait qu'il soit créé par une communauté et tout ça... Franchement, ça me passait au-dessus de la tête. J'avais un Mac, je craquais tous mes logiciels et tout ça. Et mon frère était le même qui bricole beaucoup. Lui, il était déjà utilisateur de Linux. Et un jour, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais en fait, j'ai l'impression un peu d'être un... J'utilise un logiciel gratuit, mais j'ai l'impression de rien redonner. Qu'est-ce qui... voilà, je me sentais presque coupable de ça. Et il m'avait dit, mais déjà, être utilisateur, c'est déjà participer à ça. Donc, voilà. Et 15 ans après, je me retrouve à faire des conférences devant des foules énormes sur là-dessus. Et ça a vraiment transformé ma manière de travailler parce que j'ai découvert le mouvement des logiciels libres. À partir du mouvement des logiciels libres, j'ai découvert le mouvement des makers hackers. Et donc moi, ça m'a déjà transformé parce que je fais pas du tout ce que j'aurais imaginé faire. Voilà. Tous les travaux que je fais aujourd'hui, je les publie sous licence libre. De toute manière, sinon personne en ferait rien parce que c'est pas des trucs extraordinaires. Et ça, j'aurais jamais imaginé il y a 10 ans. Moi, j'étais dans le, il y a 15 ans, j'étais dans l'esprit ah, si j'ai une super idée, faut que je la garde pour moi, sinon quelqu'un va me la piquer. Voilà. Moi, ça m'a déjà transformé. Et je pense que ça va continuer à me transformer. Par contre, j'ai aucune idée de comment. Après, au niveau des connaissances, j'ai appris énormément de choses grâce au Fab Lab parce que il y a des gens plus calés que moi dans plein de domaines. Moi, j'y connaissais pas grand-chose en mécanique. En informatique, peu. Il y a des gens super calés dans l'assaut et donc j'ai appris énormément. Donc ça m'a transformé là-dessus aussi, mais surtout dans ma manière d'imaginer. Voilà, on m'aurait dit quand j'étais étudiant que j'allais fonder une association. Je me voyais pas du tout là-dedans. Donc voilà. Par contre, pour l'avenir, je sais pas en quoi ça va me transformer. Alors l'avenir du mouvement des Fab Labs, je vais pas dire que je suis pessimiste, mais je suis un peu dubitatif. Voilà, je trouve que ça se passe pas très très bien, et je pense qu'il va y avoir, de plus en plus de séparation entre le mouvement, on va dire maker, et le mouvement des Fab Labs. C'est-à-dire des gens qui vont dire en fait, on est en train de se faire avoir. Les Fab Labs, c'est pas que pour faire des startups, c'est pas que pour créer de la richesse économique. Et j'ai peur qu'en fait, il y ait une scission entre, on va dire, des Fab Labs qui deviendrait, on va dire, la transformation par le capitalisme du mouvement des makers, et le mouvement des makers qui va rester un peu ce qu'il est, mais en se modifiant encore, justement par opposition au Fab Lab. C'est-à-dire en faisant plus de bidouilles, plus de récupération et peut-être un peu moins de gadgets. Après, je suis dubitatif, j'ai pas du tout de vision à long terme, parce que je sais pas ce que ça va donner, je connais pas assez tous les Fab Labs de France pour ça, et du monde pour savoir ce que ça va donner, mais c'est vrai que les partenariats officiels entre la Fab Foundation, entre plein de Fab Labs et des fabricants de logiciels propriétaires, c'est pas un très bon signe pour moi. Donc voilà. Mais par contre, le mouvement maker, lui, il reste très très vivace. Et en France, on parle beaucoup plus des Fab Labs parce que ça a été très à la mode, ça a été porté par un appel à projet. Madame le ministre Fleur Pellerin en avait parlé, tous les journaux en ont parlé. Donc il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'il y a autre chose que les Fab Labs, qu'il y a les makerspace et les hackerspace. Et donc peut-être que ça va s'équilibrer un petit peu, que les Fab Labs vont rester très peut-être plus dans la médiation auprès des particuliers. Je trouverais ça dommage que les makerspace restent dans, un peu plus pour les geeks, les bricoleurs qui restent entre eux, et que les Fab Labs se tournent vers le grand public et les entreprises. Moi, j'aimerais bien que le mouvement maker un peu dur, alternatif, s'ouvre plus au grand public. Après, est-ce que ça va marcher? Comment je sais pas, mais la démocratisation de plus en plus grande des outils va faire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se tourner vers ça. Il y a 10 ans, personne connaissait les imprimantes 3D, alors que ça existe depuis 85. Hein. Maintenant, tout le monde les connaît. Ça attire beaucoup de gens. C'est pas l'outil le plus utilisé dans les Fab Labs, mais donc ça va peut-être créer un mouvement qui va rééquilibrer un peu, on va dire, les makerspace très alternatifs avec des gens très barbus qui bricolent entre eux dans leur coin, qui font des choses très créatives et souvent en partenariat avec d'autres associations, des trucs comme ça. Mais ça reste dans des milieux un peu, je veux dire, alternatif, voilà. Donc ça serait bien que ça s'ouvre un peu plus, et voilà. Après, je parle pas de l'avenir parce que j'ai pas de vision très claire, voilà. Et nous, notre asso, dans 10 ans, alors nous, on espère avoir de plus en plus d'utilisateurs. Ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est qu'on développe beaucoup plus de partenariats avec d'autres associations. On le fait déjà un petit peu, on travaille avec des bars associatifs, on va sur des événements, on essaye de créer des choses ensemble, mais on n'a pas encore assez de temps de bénévolat pour développer autant de choses qu'on voudrait. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais dans l'avenir, c'est de participer à des festivals, qu'il y ait un peu plus de création. Aujourd'hui, on est un peu dans une phase où on fabrique nos outils. Et on crée pas assez avec ces outils. Mais c'est normal, on en est au début, ça fait que 3 ans, on n'a pas encore toutes les machines qui marchent et tout ça. Et donc j'aimerais bien que la partie création se développe et que la partie création de nos outils devienne un peu plus anecdotique, voilà, sur le long terme. Et puis surtout de trouver des liens entre ce qu'on fait nous, notre mouvement, et par exemple, hier je suis allé voir les gens de l'atelier paysan. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Ils ont un stand, alors ils sont pas là aujourd'hui, ils ont un stand par là-bas. Et eux, ils bricolent, mais ils bricolent avec le poste à souder, la meuleuse et tout ça. Ils créent des outils, leurs propres outils pour les agriculteurs. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un lien à créer là-dessus. Il y a plein de choses qui se créent autour de l'habitat, de la construction écologique et tout ça. Il y a des choses dans les mouvements paysans. Et si les Fab Labs restent juste à fabriquer des drones et des abat-jours, je dis ça parce qu'on a beaucoup d'abat-jours, j'aime bien les abat-jours, et qu'il n'y a pas de lien qui se crée entre ces différents mouvements, on aura raté quelque chose. Mais je pense que le lien, il va se faire. Là-dessus, je suis assez optimiste. Combien de temps, je ne sais pas, mais voilà. Pour qu'on... Ouais.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de revenus universels et de taxer les robots. Et je pense que vous devriez intégrer ces deux paramètres pour mieux communiquer, parce qu'en fait, vous avez la chance d'être dans quelque chose qui est porteur au niveau de l'avenir. Les gens sont complètement largués. Donc, à partir du moment où, si on taxe les robots, ça va faire des revenus. Et s'il y a alors un revenu universel, il y a des gens qui vont pouvoir se consacrer exclusivement à ça, quitte à vivre modestement. Ça va aller dans le sens de l'empathie que vous avez, parce que on voit manifestement que c'est pas pour vous que vous êtes intéressé, mais beaucoup plus pour autrui. Donc en fait, ces notions, il s'agit pour vous de les fantasmer maintenant de telle manière que vous pensiez aujourd'hui à ces deux aspects-là pour améliorer votre perception du futur.
Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi, oui, dans mes rêves, il y a le revenu universel et je me consacre au Fab Lab parce que je pense que c'est quelque chose d'utile et que je sais que je peux pas faire payer aux adhérents. Si je voulais faire payer de quoi vivre aux adhérents la fabrication des objets ou des choses comme ça, ou l'accompagnement ou la formation, ça serait trop cher et ils viendraient plus. Donc oui, dans l'idéal, on serait tous, et je serais pas le seul hein, dans l'assaut, je pense qu'on sera au moins 3 ou 4 à faire tourner l'assaut et on n'aurait plus que, au lieu d'avoir une permanence et demie par semaine, on serait ouvert tous les jours et ça marcherait super bien. Donc ça, on l'a un petit peu intégré, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à l'imaginer à très court terme, on verra dans quelques mois. Mais par contre, c'est vrai que l'idée faisant son chemin, j'ai meilleur espoir qu'il y a quelques années. Il y avait un autre aspect de votre question auquel je voulais répondre, mais j'ai oublié ce que c'était. Ah oui, sur les robots. Non, c'était pour faire une blague nulle. En fait, on pourrait créer des robots pleins, comme ça, ils seraient taxés et ça nous paierait notre revenu universel à nous. Mais... Non, après, il y a la question des robots, c'est une question assez compliquée. C'est-à-dire que les robots, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est un peu ce que je disais là-dessus, sur tous les outils. C'est un outil. Après, si un robot, il vole le travail d'un homme, enfin, il remplace le travail d'un homme pour améliorer la condition de l'homme. C'est une belle invention, c'est un bel outil. Si le robot il remplace le travail de l'homme pour qu'une entreprise fasse plus de bénéfices, c'est plus un outil au service de l'homme, c'est un outil au service du bénéfice. Donc le robot, c'est comme le téléphone portable, c'est comme l'ordinateur, c'est pas mauvais en soi, c'est mauvais en soi dans la tournure que ça prend aujourd'hui. Et dans cette tournure-là, en effet, et il faut taxer les robots pour payer les gens qui travaillent plus. Après, si moi je fais très attention à dire, j'ai pas envie de créer des machines et des robots qui vont remplacer un travail utile de quelqu'un qui aime son travail. Ça serait une grosse erreur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souvent me posent la question, mais est-ce que ça va remplacer l'artisanat? Mais vous allez tuer les sculpteurs avec vos machines. Non, je veux pas tuer un sculpteur parce qu'un sculpteur il aime son travail, il va continuer à le faire. Et il y a des gens qui vont toujours préférer une sculpture en bois qu'un truc imprimé en plastique, même si c'est du plastique de maïs. J'utilise ces outils parce que je sais pas sculpter à la main et j'aime bien créer des formes et j'arrive à créer des formes avec ces outils. Un sculpteur, il arrive à créer des formes et ce dont il a besoin avec ses outils à lui. Et c'est pas deux choses en opposition. Par contre, si le but de la machine c'est de remplacer le sculpteur, là ça devient nuisible. Mais donc les robots. Après, moi, la question que je me pose sur le plus long terme, mais c'est un autre débat, c'est cette taxe sur les robots, elle va rapporter de l'argent que si on fait plein de robots pour produire plein d'objets merdiques qu'on va jeter très vite. Et voilà, si on sort de ce mode de société de surconsommation et de production de masse, on n'a plus besoin de tous ces robots. Donc le modèle de la taxe robot, je pense que ça peut, avec on va dire, ma faible vision à long terme, ça peut être qu'une solution de transition. C'est-à-dire de dire, là, on est dans une phase où on a déjà plein de robots, on en profite, on les taxe pour mettre en place, grâce au revenu universel, où là, plein de gens vont pouvoir réfléchir, faire des choses, pour créer un autre monde. Mais dans l'idéal, il ne devrait pas y avoir des millions de robots qui fabriquent des millions de voitures, des millions de télé, des millions de téléphones portables. À la limite, ça serait bien un monde où tout le monde est au revenu minimum universel, mais si c'est pour continuer à acheter des merdes comme ça et les jeter un an après... la condition humaine se sera améliorée, par contre l'environnement et tout ça ça aura rien changé. Donc je pense cette histoire de taxe robot, pour moi ça peut être qu'une transition, parce que sur le long terme, si on continue à produire des robots et avoir besoin des robots, c'est qu'on continue à aller dans le mur. Voilà, donc c'est une vision d'avenir pas très optimiste encore, mais voilà, par contre si on arrive à l'utiliser pour changer, là c'est bien, je pense.
Justement, au niveau de l'environnement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que du coup, pour fabriquer tous ces objets, toutes ces inventions que vous faites dans les Fab Labs, vous pouvez venir du matériel de Chine, du matériel un peu loin. Donc est-ce que tout ce matériel high-tech, c'est pas un peu en contradiction avec le fait de vouloir réduire un peu l'obsolescence programmée et tout ce qui découle de notre consommation actuelle?
Alors, c'est un peu une question de quantité. Alors j'avais fait l'avocat du diable en disant on achète... Alors c'est vrai que malheureusement, la plupart des composants de nos machines aujourd'hui, ils sont fabriqués en Chine. Voilà. On n'a plus de fabricants de moteurs pas à pas. Il y en a peut-être encore en Europe, mais tous ceux qu'on achète, ils viennent de Chine. Voilà. Après, c'est toujours la question de dire... chaque fois qu'on achète quelque chose, est-ce qu'il va servir à quelque chose? Donc si on fait venir de Chine un moteur papa qui va permettre de fabriquer beaucoup de choses localement et que ça compense son utilisation, alors on n'a pas fait de calcul parce qu'après ça, on passerait notre vie à calculer le retour sur, on va dire, pas investissement mais sur pollution de, voilà. Donc c'est pour ça que nous on essaye toujours de se dire voilà, est-ce que ça sert à quelque chose? Dès qu'on produit et qu'on consomme quelque chose, on pollue. Donc voilà. On a imprimé aujourd'hui plein d'abat-jour qui servent à rien. On a pollué. C'était pour la démonstration, mais voilà. Après, il faut savoir qu'une imprimante 3D, ça consomme assez peu d'électricité. C'est de l'ordre de 100 watts pendant que ça fonctionne. Donc l'impact n'est pas énorme. Par contre, les gens qu'on ait l'espèce de mythe là de relocaliser l'industrie. Chez nous, grâce à des millions d'imprimantes 3D, ça serait une catastrophe. Parce que produire des millions de pièces avec des millions d'imprimantes 3D, c'est beaucoup plus énergivore que produire des millions de pièces en Chine et les faire venir dans un gros conteneur. Voilà. Mais les deux sont énergivores et sont mauvais. Le but, c'est pas d'utiliser ces machines pour faire de la production de masse. De toute manière, elles sont pas adaptées. On peut pas produire des millions de pièces avec une imprimante 3D, c'est trop lent. Donc, on peut pas faire de la consommation. Vendre des centaines d'objets faits à l'imprimante 3D, ça marche pas. Donc c'est de toute manière un outil qui est limité à un petit nombre d'objets. Cette machine permet de fabriquer des objets qui permettent d'augmenter la durée de vie d'autres objets, globalement, le bilan, c'est à vue de nez, hein, je l'ai pas calculé, mais il est sûrement positif. Voilà. Parce que... elle est transportée une fois. Alors la nôtre, elle vient du Danemark. Voilà. Après, l'idée ce qu'on appelle les RepRap, qui est le mouvement qui a démocratisé les imprimantes 3D, et l'idée, c'était carrément d'imprimer la plupart des pièces de l'imprimante avec l'imprimante 3D. Voilà. Et il y a beaucoup de machines dont l'idée, c'est de... Pas forcément à l'imprimante 3D. Nous, la nôtre, c'est avec une découpeuse laser qu'on peut réparer les pièces, ou on peut recréer des imprimantes 3D où en fait on va faire venir de Chine que les moteurs et l'électronique. Voilà. Donc déjà ça limite un petit peu. Mais après oui, il y a une contradiction. C'est toujours la question de l'outil jusqu'où on. Je pense que c'est plus une question de cohérence. Faut toujours se poser des questions. On n'a pas toujours la réponse. Hein, c'est trop compliqué. Et des fois il faut peut-être rester un peu sur le bon sens. Mais comme je disais, c'est une question de quantité. Oui, si tout le monde a une machine, une imprimante 3D chez lui, ça serait débile. C'est pour ça que nous, on croit en des lieux de mutualisation. On met les outils en commun. Mais par contre, si quelqu'un venait en me disant, moi, j'aimerais produire des coques de téléphone portable, parce que là, il y a de l'argent à se faire, est-ce que je peux les faire au Fab Lab? La réponse, ça sera non. Parce que, on n'a pas fait venir cette machine en partie de Chine pour fabriquer des objets localement qui servent pas à grand chose. Après, au niveau des matières premières, aujourd'hui on utilise du filament qui est donc principalement c'est du PLA, c'est un amidon de maïs en fait. Par contre, on n'a pas de traçabilité sur d'où vient le maïs, est-ce qu'il est OGM, est-ce qu'il a utilisé des nappes phréatiques et tout ça. Ça s'améliore petit à petit. Il y a des fabricants bretons qui essayent d'en faire à partir d'algues. On a une machine déjà pour créer notre filament, un extrudeur, et on est en train de fabriquer un broyeur. Donc la première étape, ça va être de broyer nos déchets à nous pour refaire du filament, ça c'est facile. La deuxième étape, c'est de recycler du plastique, des déchets de plastique pour créer notre filament. Comme ça, au moins au niveau de la ressource, on aura moins de voilà. Après, dans l'idéal, oui, on va même fabriquer des éoliennes nous-mêmes pour produire l'électricité qui fait tourner nos machines. Si tout est fabriqué en local, on peut commencer à avoir un cercle de plus en plus vertueux. Aujourd'hui, on est à une étape où, malheureusement, on est obligé de faire venir une partie de loin avec un coût, en effet, voilà. Mais c'est, je dirais, ce qui est important, c'est d'en être conscient. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas dire, ouais, on est des super écolos, on ne consomme rien parce qu'on a notre propre imprimante 3D. Je pense que si on fait semblant, c'est négatif finalement pour l'image de ce mouvement-là, pour la crédibilité, pour ce que les gens vont penser et vont comprendre. On entend souvent des gens qui disent avec les imprimantes 3D, on va construire des maisons pas chères pour sauver les gens, des conneries comme ça, c'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est être conscient de l'impact qu'a ce qu'on fait. C'est pour ça, quand je disais, c'est une réappropriation critique de la technologie. C'est-à-dire que, voilà, on sait que c'est pas parfait. On essaye de faire ce qu'on peut. Il y a sûrement des choses qu'on va faire mal. On va peut-être se rendre compte dans 10 ans qu'il y a toute une partie de ce qu'on a fait qui servait à rien. Mais en tout cas, on aura essayé. Et voilà.
C'est pas vraiment une question, mais merci de tous ces éclaircissements. Et ça me faisait penser aussi au Ripper Café. Oui. Voilà, je faisais le lien, c'est tous des mouvements qui sont encore petits, mais qui peuvent grandir et qui, je pense, avec le revenu universel, pourraient se développer. Voilà, il y a des avenirs à chercher en lien avec tout ça. Et je pense qu'on a envie de se réapproprier un peu le monde et ça fait du bien. Merci.
Alors c'est vrai, juste pour rebondir, nous on rêve de faire des répars café, on nous demande de le faire, c'est juste qu'on n'a pas le temps. On a fait le choix de dire bah, peut-être plus tard quand on aura le temps, mais on regrette vraiment là, il y a l'atelier Soudé qui est là, qui font beaucoup d'activités de répars café sur Lyon, et c'est génial ce qu'ils font. Mais ça prend beaucoup de temps, eux ils nous ont dit ils font ça à temps plein, c'est une asso qui fait presque que ça quoi. Mais dans l'idéal, oui, il faudrait qu'on combine tout ça. Voilà. Et nous, on a plein de gens dans l'asso qui savent réparer, qui savent bricoler. Et c'est trop dommage de ne pas utiliser ça pour... c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps libre pour le faire. Et en effet, une fois qu'on aura notre revenu minimum universel, eh ben, certains pourront développer tout ça. Et, enfin, je l'espère. Voilà.
Mais au mois de juin, il va y avoir la suppression des frais de roaming. L'État, au niveau européen, a forcé les fabricants, par exemple, de téléphones portables à ce qu'il y ait un seul module pour etc. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que là, de nouveau, il y a une réglementation, par exemple, européenne, pour que tous les fabricants de machines, de produits de manufacturés mettre l'ensemble des pièces qui constituent leur machine sur Internet, de sorte que quand il y a une pièce qui tombe en panne, eh bien qu'on soit localement en mesure de la fabriquer nous-mêmes, ce qui va diminuer considérablement les stocks de pièces pour le cas où il y en a qui tombent en panne à tel endroit, etc. Et donc, au niveau de l'empreinte écologique, à mon avis, ça va être une grande amélioration, ne plus avoir aucun stock et ne fabriquer que localement des pièces qui tombent en panne éventuellement.
Alors, en fait, c'est déjà, ça commence un petit peu. Il y a un fabricant, je ne vais pas donner son nom parce que j'ai peur de confondre et puis je ne veux pas faire de pub. Il y a un fabricant d'électroménager qui le fait. Lui, c'est une manière de se faire un gros coup de pub. C'est-à-dire que toutes ces pièces détachées, il y a les plans sur Internet pour pouvoir les télécharger et les imprimer en 3D pour réparer. Donc ça, c'est vrai que ça serait bien que ça se généralise, surtout que ces fichiers 3D existent, on le sait, puisque tout est conçu en 3D aujourd'hui dans l'industrie. Donc ils les ont, ces fichiers. C'est juste qu'il y a une espèce de blocage justement autour de la propriété intellectuelle. Ils ont peur que quelqu'un leur vole la forme du bouton du lave-vaisselle, quoi, qui est un truc hyper important. Et donc il y a cette espèce de mythe de tout ce qui est créé par l'esprit a une valeur marchande, et si je le mets sur Internet, je perds cette valeur. Alors qu'en fait, c'est justement en le mettant sur Internet qu'on lui donne de la valeur. Mais ça, je pense, c'est un mouvement qui va se généraliser. En effet, ça serait un gros progrès. Et c'est là que le fait de... Par contre, en effet, si chacun a son imprimante pour réparer chez lui, on perd un peu de cet intérêt. Mais si chacun, chaque fois que son imprimante casse, se dit « Tiens, bah, je vais aller voir telle association. » Et ça lui permet en plus de rencontrer des gens. Voilà, ça crée du lien. Là, on aura fait un gros pas, oui. Ouais. Après, au niveau de l'Europe, je sais pas comment ça va se passer, mais oui, c'est le genre de choses qui peut vraiment faire progresser.
J'ai plutôt une question technique, du coup, quels sont tes, on va dire, 5 logiciels libres que tu trouves les plus, enfin, qui t'apprécies le plus, que tu utilises le plus, qui te semblent les plus incontournables vis-à-vis justement de, bah, du payant autour? Qu'est-ce qui est le plus performant dans ton quotidien, on va dire? Et puis, est-ce que tu peux, enfin, une minute ou deux, simplement, peut-être expliquer le scanner 3D, comment ils font? Enfin, j'ai du mal à imaginer que ça, c'est déjà existant à des niveaux aussi bas dans l'échelle, on va dire, de la société. J'imagine ça encore type Star Wars ou ce genre de choses. Ouais. Mais
5 logiciels libres incontournables. Alors là, je parle pour la fabrication. Donc je vais pas parler de navigateur de Linux pour le système d'exploitation et tout ça. Alors après, moi, personnellement, c'est Blender, qui est un logiciel de 3D que j'utilise le plus. C'est pas tellement un logiciel qui est fait que pour faire des pièces à l'origine. Il est fait pour créer en fait des animations, des films, genre Toy Story, ce genre de choses, quoi. Mais il est extrêmement puissant. Il a des outils de modélisation très souples. Donc moi, la plupart de ce que je le crée avec Blender parce que ça fait des années que je l'utilise et que j'en suis un gros fan. Voilà. Par contre, c'est pas forcément le plus adapté pour démarrer. Alors la Fondation Blender est en train de travailler sur une version pour scolaires et débutants, parce qu'il est très dur à prendre en main, et justement ils voient qu'ils sont en train de passer à côté de tout le mouvement des gens qui veulent juste découvrir la 3D pour créer des pièces et qui n'ont pas besoin de faire des effets spéciaux, des films et tout ça. Et donc ils sont en train de travailler sur une version allégée de Blender qui permette de le prendre en main facilement. Voilà. Le deuxième incontournable pour la 3D, c'est FreeCAD, qui est un logiciel de modélisation donc paramétrique. C'est pas du tout la même approche. Pour ceux qui connaissent la 3D, c'est plus proche de SolidWorks. Donc ça permet en fait de créer des pièces plutôt mécaniques, on va dire, mais à partir de paramètres. On va dire, c'est un cube qui a tel côté, telle dimension, avec un trou rond de telle dimension, et à n'importe quel moment, on peut changer le paramètre de la dimension et la pièce s'adapte. Et on peut faire des mécanismes très complexes avec ça. Et en plus, ils sont en train de développer un module architecture qui n'est pas encore complètement opérationnel pour créer des bâtiments directement dans FreeCAD. Le troisième que je mettrais, c'est Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel. Donc c'est l'équivalent d'Illustrator, mais en libre. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise beaucoup de machines 2D. Donc la découpeuse laser, la découpeuse vinyle, c'est beaucoup plus facile à prendre en main, la 2D. Mais en fait, en utilisant une découpeuse laser, vous pouvez faire des boîtes avec des emboîtements. Par exemple, vous découpez une plaque avec des emboîtements et vous pouvez créer du volume. Donc, on n'est pas du tout limité à faire des plaques. Donc, toute la caisse de notre imprimante 3D, elle est faite comme ça. Et là, donc, on peut utiliser Inkscape, qui est un logiciel libre et qui est plutôt tourné créativité, mais qui peut être utilisé pour faire des pièces assez techniques. J'en suis à 3. Il en faut 2 autres. Après, pour se limiter au dessin 2D technique, il y en a un qui s'appelle LibreCAD, qui permet donc Inkscape, c'est plus pour faire du dessin artistique, mais LibreCAD, lui, permet de faire du dessin coté. Donc c'est du plan, c'est que de la 2D, mais qui pourra être utilisé pour pour justement tout ce qui est découpe laser, découpe vinyle et fraiseuse. Et ça, il parlera plus à des gens qui ont utilisé AutoCAD, par exemple, et qui veulent plus une approche technique avec des cotes et tout ça. J'en suis à 4. Un cinquième. C'est bon. Voilà. Et donc, alors le scanner 3D, c'est. Ça marche pas encore très bien. Pour les scanners pas hors de prix. C'est-à-dire qu'il y a des scanners propriétaires à entre 10 et 40 000 euros qui, eux, marchent très bien parce qu'il y a un énorme logiciel derrière qui vous mâche le travail et tout ça. Aujourd'hui, en logiciel libre, il y a plusieurs méthodes pour scanner. Donc nous, on en a un petit là qui s'appelle le Cyclope, qui est fait pour être imprimé en 3D. Les plans sont libres, donc vous pouvez le télécharger. Après, il faut acheter un moteur, un seul, une carte Arduino et des tiges filetées que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage et 2 diodes laser fabriqués en Chine, probablement. Et en fait, l'idée, c'est que vous mettez l'objet sur un plateau qui tourne et les 2 lignes laser vont envoyer 2 lignes sur cet objet. Et en fait, les lignes, elles sont déformées par le relief de l'objet. Et il y a une webcam fabriquée en Chine qui prend une photo de ces deux lignes. Et après, l'objet tourne un petit peu et il reprend une photo. Et l'objet tourne. Et après, il y a un logiciel qui est libre qui permet de calculer le volume de l'objet en fonction de la déformation de ces lignes. Il sait que si c'est plan, ça fait une ligne droite. Et si ça fait une courbe comme ça, et ben, il en déduit le volume. Et à partir de ça, il peut reconstruire un volume en 3D. Donc c'est un bon exemple. Quand je disais que personne ne peut comprendre l'ensemble des logiciels, tout ça, j'ai aucune idée de comment marche ce logiciel. Je comprends le principe, mais par contre je sais qu'il y a, il y a plein de développeurs qui ont développé ce logiciel et qui font partie d'une communauté, et si jamais j'avais une question ou un retour, je pourrais leur dire modifie ça. Alors l'inconvénient de ce scanner, c'est qu'en fait comme c'est des lignes laser, si vous scannez un objet qui est rond, le dessus du rond va pas être très bien scanné. Donc nous on a par exemple fait on a scanné un petit cochon, une tirelire avec, et le dessous de la tirelire est pas bien scanné, donc on doit faire un deuxième scan en le tournant et en le couchant sur le côté, et après il faut combiner ces deux scans. Et donc là il y a aussi un logiciel libre qui s'appelle MeshLab et qui permet de combiner les nuages de points justement pour recréer ça, et il a plein de modules pour rendre ça plus facile, mais il y a quand même encore du boulot. Donc il n'y a pas encore la machine à reproduire. On pose l'objet, on appuie sur un bouton et pff, il sort de l'autre côté. Il y a encore une grosse étape de travail entre on scanne l'objet. Donc pour des objets géométriques, en général, ça va plus vite de les redessiner. Par contre, pour des objets, mettons que vous vouliez... C'est beaucoup utilisé dans les musées, par exemple, parce que les enfants, ils aiment bien toucher, manipuler. Donc nous, on a scanné un crâne d'Homo ergaster, un moulage de crâne, c'était pas le vrai, parce que dans un musée vous pouvez pas laisser les gens toucher le vrai vestige archéologique. Par contre vous pouvez le scanner et en faire une copie, et comme c'est des objets très arrondis, très déformés, là de les redessiner à la main c'est impossible, mais avec le scanner vous pouvez en faire une copie presque exacte. Et là après les enfants, c'est une copie en plastique, ils peuvent le toucher, le manipuler, le casser, en faire ce qu'ils veulent, et voilà. Et sinon, il y a d'autres techniques de scan 3D qui marchent très bien maintenant. C'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. Donc, en fait, on prend plein de photos autour de l'objet ou du bâtiment. Et il y a des logiciels. Alors là aussi, il y a des logiciels libres qui aujourd'hui sont pas faciles à prendre en main, mais marchent très, très bien. Et à partir de ces photos, en fait, c'est l'ordinateur qui calcule. Ne me demandez pas comment. Il voit, par exemple, le décalage. On vous prend en photo de face. Il voit que le nez, il a cette forme-là. On vous prend de profil. Le nez de profil est à cette forme-là. Et lui, il en déduit, il reconnaît des points de concordance entre les deux photos et il en déduit la forme. Alors, avec deux photos, ça marche pas. Plus il y en a, mieux ça marche. Et donc, on a même plus besoin de matériel pour faire du scan 3D. Par contre, c'est limité. On peut pas, ça marche pas sur des objets transparents ou des objets réfléchissants parce que le reflet va perturber le logiciel. Et que si vous voyez au travers, lui, il sait pas si c'est, voilà. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir comment prendre les photos pour que ça marche bien. Mais ça marche assez bien aujourd'hui. Je sais pas si techniquement tu vois mieux comment.
Des chercheurs qui travaillent sur les pyramides égyptiennes, justement, avec un nouveau système, ça va plutôt être au niveau, je sais pas réellement, mais ils arrivent, c'est très 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 long, c'est des mois et des mois de scan, mais ils arrivent à percer la matière et à voir l'intérieur des pièces, c'est-à-dire que si j'ai bien compris le système, il fait la forme extérieure, mais il comprend pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que le crâne, il fera pas la cavité, par exemple.
Non. Ouais. Nous, il peut pas scanner l'intérieur. Alors après, je sais pas quelle technique ils utilisent. Je sais que, par exemple, avec des ultrasons, on peut, en mesurant le retour des ultrasons, c'est utilisé dans l'industrie pour trouver des fissures à l'intérieur, par exemple des coques de centrales nucléaires, pour voir qu'il y a des fissures partout dedans. Ils utilisent cette technique, ils voient pas la fissure en surface, ils la voient à l'intérieur. Je suis pas sûr que ce soit les ultrasons qu'ils utilisaient dans ce cas-là, parce que ils sont peut-être morts en s'approchant de la coque, mais c'est utilisé pour trouver des défauts à l'intérieur des pièces. Donc c'est peut-être ça qu'ils ont utilisé pour le, voilà. Mais on n'a pas d'outils libres pour faire ça aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a peut-être un jour quelqu'un qui va libérer ce genre de technique en créant un logiciel qui permet d'interpréter les données d'un capteur ultrason et pour que n'importe qui puisse scanner l'intérieur de son frigo sans même avoir à l'ouvrir ou je sais pas ou n'importe quoi. Ouais.